Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau warm-up du SAV. Nous allons revenir sur le début du week-end de ce Grand Prix de Monaco, ainsi que les actus récentes de la F1. Je suis Shinji et j'ai le plaisir de recevoir en ce samedi après-midi, Buchor, Gus Gus et Quentin. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Allons, bien. Enfants
de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Bon, vous compléterez vous-même la fin.
Donc vous aurez compris qu'on enregistre après la course de Formule 2.
Ouais.
Oui. Voilà. On aura l'air con s'il se fait disqualifier pour des raisons techniques, mais...
Tout à fait.
Voilà. C'est pour ça qu'on préfère chanter cet hymne-là plutôt qu'un autre, transalpin, parce qu'on n'est pas certain de l'heure actuelle.
Ouais, de toute façon, il n'y a rien.
Faut faire briller la France. Vous savez qu'on nous écoute du monde entier. On a eu un message récemment d'un auditeur, on le salue, de Nouvelle-Zélande.
Aurélien, on le remercie pour le très gentil message qu'il nous a laissé.
Bonne route, Aurélien.
Et bonne route, tout
ouais,
à fait. Parce qu'il
route,
nous écoute
hein.
De son camion.
Donc on essaiera de ne pas faire trop de rôle pour éviter de te faire quitter la route. Hein. On sait jamais.
Il nous écoute d'un camion, c'est la Ferrari de 91.
Ah, peut-être.
J'espère pour lui que c'est pas la Ferrari de Charles Leclerc.
Dans l'état de... Oui, à 16h02, oui, c'est clair qu'il n'était pas forcément...
Tu sens le... Et Gus, tu le sens le fan d'Hamilton très frustré par les qualifs.
Oui, bah écoute, cette personne... Mais je n'écoute pas cette personne.
Messieurs, avant de parler de ce week-end, parlons un peu des actus qui ont pu sortir cette semaine, en tout cas ces deux dernières semaines. Et déjà, encore une fois, une actu calendrier, puisque le Grand Prix de Turquie, qui devait remplacer le Grand Prix... du Canada, et donc remplacé lui-même, puisque lui non plus ne pourra pas avoir lieu. Pourquoi ? On sait tous pourquoi, hein, c'est toujours la même raison depuis 18 mois. Et donc, cette fois-ci, la solution, ce n'est pas un retour du Mugello, pas un retour du Nürburgring, non, c'est un décalage, hein, puisque à la place donc, du Grand Prix de Turquie, nous aurons le Grand Prix de France qui est donc avancé d'une semaine. Et à la place du Grand Prix de France qui était prévu le 27 juin, nous avons un retour, entre guillemets, celui du Grand Prix de Styrie, ce qui veut donc dire deux courses en Autriche, hein, puisque la semaine d'après, il y aura le Grand Prix d'Autriche traditionnel. Messieurs, un avis sur ce changement de calendrier, alors qui fait pas les affaires de beaucoup de gens, parce que le Grand Prix de France, il est quand même dans à peine un mois.
Eh bien, le bonheur des uns, le bonheur des uns, le bonheur des autres, ça libère des places pour des gens. Donc merci à la Covid. Moi, je tiens à remercier le laboratoire de Wuhan, qui me permet d'être là le samedi du Grand Prix de France.
Ouais. Ouais.
Et t'es pas triste d'avoir un Grand Prix de France où il y aura pas la démo de Romain Grosjean?
Oui, mais moi, comme je vais qu'au samedi, je... Bon.
Alors, du coup, je me permets de passer un message d'avertissement à nos auditeurs qui voudraient aller se rendre au Grand Prix France le samedi. N'y allez pas, vous risqueriez de croiser Gus Gus là-bas, donc...
Il y a des chances qu'on se croise, oui.
Et alors, sinon, l'ajout d'un deuxième Grand Prix en Autriche, comme l'an dernier, finalement...
Ah, on sent qu'il y a des acteurs autrichiens importants dans le monde de la Formule
1. Ouais,
qui ont du pognon, je pense, aussi. Parce que, bon, faut être... Même si on n'est pas... tous ultra fans du circuit Paul Ricard, parce que les courses qu'on a pu y voir dernièrement en F1 n'ont pas été extraordinaires, mais bon...
Non, vaut mieux y être.
Ouais, quand tu peux y accéder au circuit.
Non, mais c'est vrai qu'au Ricard, il y a des configs de
voilà.
Piste, donc on aurait pu jouer là-dessus.
C'est ça, c'est surtout qu'il y a plusieurs configurations possibles, mais c'est surtout que le Paul Ricard a normalement plusieurs configurations homologuées grade 1.
Tout à fait.
Donc, il aurait pu faire deux courses sur deux tracés différents. Et on a pu voir à Bahreïn l'année dernière que quand sur le même circuit, tu as plusieurs tracés différents, c'est pas les mêmes courses.
Après, l'an dernier, il y avait eu deux courses différentes en Autriche, malgré le fait que la piste était la même.
Alors, la sémantique,
c'était les deux
Shinji,
premières de la saison.
Tu la prends dans une main. Et...
C'était les deux premières de la saison aussi. Donc,
c'est vrai aussi.
Il est arrivé pas forcément hyper bien préparé. Bon, là, on est en milieu de saison. Ce sera peut-être pas exactement la même chose. Mais effectivement, les événements peuvent toujours créer des surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. On en reparlera plus tard. Et tu as parlé de Romain Grosjean vite fait. Romain Grosjean, ça remet quand même pas en question sa journée d'essai privée. Ça remet effectivement...
C'est juste la démo, quoi. Voilà.
La démo pendant le week-end du Grand Prix.
Puisqu'il sera en IndyCar le même week-end. Romain Grosjean qui était au commentaire, là, pour les qualifs, d'ailleurs.
C'est grosse actu en ce moment, Romain Grosjean, parce qu'il a fait deuxième du Grand Prix d'Indianapolis le week-end dernier.
Après avoir fait la pole.
La pole. Bon, moi, j'écoute plus sur Canal, mais j'ai entendu dire.
Ben, moi, j'ai trouvé... Alors, j'ai pas suivi les commentaires à 100%, mais j'ai trouvé bien, quoi.
Moi, j'ai trouvé bien aussi, ouais.
Et je suis pas surpris. Je pensais que déjà, dès la fin de l'année dernière, je me disais, ah, Grosjean, commentaire Canal, ça pourrait être une bonne chose. Je suis content, du coup, qu'il se fait au commentaire ce week-end, et j'ai trouvé, ce pendant les qualifs, qu'il était bien, quoi.
Bah, ce qui doit changer, outre les personnalités, c'est la connaissance de la modernité de la Formule 1. C'est vrai que Jacques Villeneuve, sa dernière expérience en écurie, c'est 2006, ça commence à dater. Alors que Romain Grosjean, bah, il va encore être dans une voiture d'ici quelques semaines. Donc, bon.
Autre petite actu de l'entre-deux-courses, alors... C'était l'actu mystère McLaren. Alors, au début, c'était les journalistes britanniques qui nous disaient « Oui, vous allez voir, il va y avoir une annonce de dingue du côté de chez McLaren. » Moi, je me souviens, la fuite avait eu lieu au moment où on avait enregistré le
Jacques SAV. Lafuite.
Jacques Lafuite, tout à fait. Alors, au moment où on avait enregistré le SAV de la course, donc après l'enregistrement de l'émission, on commençait à avoir des hypothèses. Ouais, c'est peut-être une annonce pour l'hypercar, des trucs comme ça. Et puis, il y a eu l'annonce.
C'est alors moi, juste McLaren qui s'était fait cryogéniser.
Moi, je vous avoue, ça a été un peu les montagnes russes. C'est-à-dire que quand ils ont annoncé, oui, c'est une nouvelle livrée, je me suis dit, ouais, ça y est, c'est encore un truc de commerciaux. Ils nous ont vendu un truc de dingue. Et puis, en fait, c'est juste un truc à la con. Et puis, ils ont montré la livrée. Et faut avouer qu'elle est belle, cette livrée McLaren.
Bah, quand tu prends ces couleurs iconiques reconnues de tout fan de sport auto qui a plus de 10 ans de connaissance de l'histoire du sport auto, ouais. Après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'orange. Alors, c'est livré McLaren, donc forcément, ils ont privilégié aussi leur couleur.
Dans la livrée Golf aussi, il y a de l'orange.
Il y a de l'orange, mais en règle générale, c'est le bleu. Alors que je qualifierais pas pour pas froisser les gens qui connaissent vraiment les couleurs, c'est le bleu qui est majoritaire. Là, sur certains angles, c'est quand même très majoritairement orange.
Le nez est très orange, par exemple.
Les ailerons aussi, très orange. Mais elle est réussie, c'est sûr. Et puis bon, ça fait parler. C'est réussi à tout point de vue, du coup.
Il y a les combis, il y a les casques, enfin tout est coordonné. C'est vraiment très classe. Oui, Bouchard, excuse-moi.
C'est joli, hein, mais alors honnêtement, l'annonce, elle m'a touché une sans faire bouger l'autre. Hein. C'est qu'une livrée, quoi.
Oui, pour un grand prix.
Ouais, pour un grand prix. Moi, je m'attendais, vu le barouf que ça a fait avant l'annonce, je m'attendais à une vraie annonce, quoi, pas une livrée.
Ça a fait pchit pour toi, c'est ça?
Ouais, voilà.
Est-ce que vous pensez que ça peut donner envie à Gulf d'être sponsor titre pour l'an prochain?
Ah bah après, ce serait une bonne chose pour McLaren.
Il faut qu'ils alignent le plus le pognon qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un tout petit logo sur le capot moteur. Bon.
Ouais.
Après, oui, si ça
peut... pas qu'ils ont un historique, quoi. C'est... Qui rend la livrée spéciale. Parce que sinon, bon.
Ouais, puis après, moi, je vais être honnête. C'est pas sur McLaren que je me remémore la livrée Golf. Hein. C'est plus sur des Porsche au Mans. Hein.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord.
Excusez-les de ne pas être Porsche et de ne pas être Roman.
Alors, je crois que l'hommage vient de... Alors, je suis sur la page Wikipédia du Grand Prix, et que c'est une déco qui rappelle celle des McLaren dans les années 60. Ah oui, non, ou alors... Ouais, bah pardon, j'ai mixé les deux, j'ai pas lu le début de la deuxième ligne. Okay. Ou encore la livrée de la Porsche 917 de Michael Delaney dans le film Le Mans. Ok.
D'accord.
Qui est une Porsche.
Est-ce que vous voulez revenir sur d'autres actus? Est-ce que vous voulez revenir sur cette affaire d'aileron flexible?
Bah oui, mais parce que ça, c'est toujours chiant, parce que ça revient toujours sur le devant de la scène, et c'est toujours le jeu de qui communique de quel côté, selon comment ça l'impacte ou pas. Le règlement, il est très clair. Alors, les pièces, les unes par rapport aux autres, dans leurs assemblages, elles doivent rester immobiles, c'est-à-dire que pas comme les ailerons de Red Bull à Abu Dhabi en 2014, je crois, où ils s'étaient fait recaler des qualifications parce que les flaps de l'aileron avant, ils bougeaient, mais c'était pas qu'ils étaient flexibles, c'est-à-dire que la pièce, elle tournait autour d'un axe, ce qui est autorisé si c'est juste le mécanisme d'ajustement de l'aileron, mais pas si... si t'as un ressort qui fait qu'avec la pression de l'air, ça descend. Bon, bref. Mmh. Comme tu peux pas interdire le fait qu'un aileron en fibre de carbone il soit flexible, parce que c'est pas du béton armé, et même le béton armé, si tu mets assez de contraintes, bah, ça se déforme. Bah,
là, on a vu les images, le logo Honda il flexe.
Mais bien sûr, mais la règle elle est la même pour tout le monde. Je vais pas sur le point technique particulier. Il y a une déformation, que ce soit en termes de qui est autorisée, que ce soit en termes de rotation en angle ou de déplacement en millimètres, qui est spécifiée quand tu appliques une certaine charge. Sur l'aileron, les ailerons qui sont testés, à chacun de s'adapter.
En tout cas, il y aura des nouveaux tests pour le Grand Prix de France, justement, je crois.
Je crois que c'est ça, oui. Et d'ailleurs, c'est Sauber qui s'est plaint, c'est Alfa Romeo qui s'est plaint, parce que pour être conforme, du coup, ils vont devoir créer un nouvel aileron, donc dépenser des budgets de R&D, etc. etc.
Tant pis pour eux.
Bah oui, c'est comme ça, mais en même temps, aujourd'hui, les ailerons, ils sont légaux par rapport aux tests qui sont dans le règlement. Ils vont en rajouter parce que justement, il y a un point de règlement qui permet de le faire. Mais bon, voilà, c'est.
Ah oui, ben là, on en est où on modifie la façon de mesurer la flexibilité des ailerons en cours de saison. Ah ben forcément, si tu fais un aileron qui rentre dans le cadre des mesures. En début de saison et que tu changes la façon de mesurer au cours de la saison, ben, effectivement, il risque d'avoir des ailerons qui ne passent plus le contrôle. Non, mais ça, c'est... Je te coupe, mais juste pour terminer, ça, c'est encore un truc, un coup de la FIA. Ils le savent, ils ont jusqu'à annoncer des nouvelles règles pour l'année suivante, et parce que là, je comprends
C'est parce que Mercedes a gueulé.
Ben oui, ben, c'est pas parce que Mercedes gueule qu'il faut forcément modifier la façon dont tu contrôles les ailerons. Mmh. On le sait, ils le savaient, ils avaient qu'à. On sait que il y a des écuries. Je regarde du côté de l'Autriche qui sont plus douées à ce jeu que d'autres. Ça fait 10 ans qu'on le sait. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là. C'est vrai que si les mecs, il y a des écuries qui doivent redévelopper tout un aileron arrière, c'est quand même ballot, quoi. Alors que leur aileron a été déclaré légal en début de saison.
Là où l'argument d'Alpha il est retournable, c'est que c'est exactement la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gens qui sont pas au bout à fond du test de flexibilité ou qui peuvent gratter un petit peu, ils vont devoir sortir un aileron fait comme ça pour aller au fond de la norme du truc. Donc en fait, c'est peut-être moins.
Ah ben,
en le disant, je me suis dit ouais, c'est con.
voilà. Mais tiens, c'est juste qu'ils n'ont pas poussé, ils flirtent pas avec aux limites de la réglementation. Tant pis pour eux.
Ils ont peut-être des raisons pour aussi, parce qu'après, si ça a des avantages d'avoir un aileron flexible termes d'équilibre et tout.
On se doute que d'avoir un aileron qui flexe plus que les autres, ça doit apporter un avantage, surtout en vitesse de pointe, etc.
Oui, mais pas que. Parce que du coup, l'équilibre de ta voiture, il change, puisque l'aileron, aussi. Il fait moins de traînée, mais il fait moins d'appui, donc ta voiture, elle est plus survireuse. Bref, les ingénieurs, ils savent ce que ça va leur coûter, ce que ça va leur apporter.
Ouais,
encore une fois, le seul responsable, c'est la FIA qui décide de changer ses tests en cours d'année. Red Bull et Alfa Romeo ont bien raison d'essayer d'aller au bout de ces tests pour en profiter le plus possible. Et Mercedes, eux, ont raison, ça leur coûte rien aussi de demander à la FIA de se pencher sur le sujet. Si la FIA a envie de changer, tant mieux pour Mercedes et tant pis pour Red Bull, mais c'est la FIA qui doit prendre les décisions à la fin et c'est elle qui pose problème encore une fois.
Voilà.
En tout cas, les règles sont aussi flexibles que les ailerons du
coup. Ouais, voire même plus. C'est vrai que la FIA met des contrôles sur les flexibilités de leurs règles. Ouais. Je suis sûr qu'ils se recaleraient eux-mêmes. Mais ouais, c'est ça. Après que Mercedes râle et soulève la problématique, ils sont dans leur rôle. Je les blâme pas à Mercedes. C'est plus la FIA qui, une fois de plus, fait un peu de la merde, quoi.
Très bien, messieurs. On va, dans ce cas-là, terminer cette partie actu et évoquer le Grand Prix de Monaco. Ça fait quand même plaisir de le voir de retour.
Ouais.
Oui.
Les gros yachts me manquaient.
Les commissaires, les fameux commissaires, on les salue. Parce qu'il faut toujours saluer les commissaires.
Ça va vite.
Surtout qu'ils montrent... malgré l'absence du Grand Prix l'année dernière, ils n'ont pas perdu la main. Hein.
Non.
Il y en a, qui ont dû sentir le vent passer au deuxième tour de la course principale.
Et donc, commençons par évoquer les essais libres. Alors, on attendait les Red Bull, on les a vus, même si ça a pris un peu de temps. On attendait les Mercedes, on les a pas vus. Et par contre, on n'attendait pas Ferrari, et eux, par contre, se sont distingués.
Je rectifierai, on attendait les Mercedes, on s'attendait à quand même que ce soit plus difficile pour eux ce week-end-là. Donc moi, je suis pas tant surpris que ça par ce qui leur arrive ce week-end.
Ouais, quand même, c'est rare qu'on les voit... Oui, on peut dire en difficulté, hein, autant en difficulté.
Non, mais là, c'est le fan d'Hamilton qui trouve des excuses.
Mais oui, non, mais oui, on s'attendait à ce que Mercedes sous-performe, mais quand on s'attend ces dernières années à ce que Mercedes sous-performe, c'est-à-dire qu'on attend à ce que ce soit très serré pour jouer la pole, quoi. C'est un peu ça, quoi. On s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi loin.
Et au contraire, les Ferrari...
On attendait Mazepin dans le mur, on l'a pas eu.
Eh non.
Par contre, Mick...
Patience.
Deux fois.
Patience.
Oui. Ouais. Deux fois. Deux fois, Mick.
L'un virage et puis le suivant.
Une fois en haut et l'autre en bas, ouais. Et donc, question crash et touchette, bon bah c'est Monaco, ça a commencé relativement calme avec quelques touchettes, et alors par contre, c'est vrai que samedi matin en libre 3, deux beaux drapeaux rouges, hein. Alors Latifi, joli, mais alors c'est vrai que Schumacher, il a pas pu participer au qualif, hein. C'était vraiment le pire moment pour faire ça. Hein.
Ah bah, dans les dernières minutes. Ouais, dans les deux dernières minutes des essais libres 3.
Et même Latifi, on pouvait se poser la question.
Ouais, on voyait quand même Latifi. Oui, Latifi, on pouvait se poser des questions, mais Schumacher, il y avait pas de doute, quoi.
Latifi, moi j'ai trouvé surprenant qu'ils arrivent à réparer. Et je me souviens plus, Verstappen, il y a une année où ils avaient réussi, non? Où il avait exactement fait la même, c'est-à-dire je touche à l'intérieur du droite et donc je prends j'arrive plus à tourner parce que je casse la biellette, donc je prends
la classique en sortie de piscine, ouais.
Ouais, la classique, et il y a une année où ils avaient réussi à réparer, mais c'est Red Bull. Après Williams a fait la même, bravo à eux. C'est pas évident non plus, pas donné, quoi. Ils ont vraiment que 2 heures pour récupérer la voiture, alors même si elle est juste en contrebas. Il faut qu'elle revienne vite et échanger le demi-train avant de droite.
Oui, et puis dans ce cas-là, moi, il y a toujours la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a cassé en fait ? Qu'est-ce qui a fait fusible au moment où ça casse ? C'est, est-ce que c'est les billettes de suspension ou les tirants de suspension, ou est-ce que c'est la fixation du tirant de suspension ? Parce que souvent, ça peut être ça. Et si c'est la fixation de la suspension sur la monocoque qui lâche, tu as un peu le risque de devoir changer la monocoque.
Et puis c'est une partie complexe, parce que ouais. À cet endroit-là, t'as tout. T'as effectivement les câbles, les membres de suspension, les freins, les freins avec les lignes, hein, c'est-à-dire qu'il faut refaire tout le câblage depuis les réservoirs de liquide de frein, etc. Enfin bon, c'est un bordel, comme dirait OSS.
Ouais. Et puis en plus, quand tu tapes, tu sais pas les dégâts que au moment où la roue vient taper la carrosserie, les dégâts que ça peut engendrer aussi.
Oui. Et puis si l'arrière tape, c'est encore pire, n'est-ce pas Charles ?
Ouais.
On va y revenir. Est-ce que vous avez remarqué d'autres choses sur les essais libres ?
N'empêche, il y a eu des touchettes et tout. C'est deux rookies à Monaco en F1 qui font les erreurs, parce que Latifi a pas roulé l'année dernière, évidemment, comme
exact.
Tout le monde. Pour le reste, enfin, il y a quand même du niveau. Hein. C'est une remarque plus générale que Monaco, mais on attend. Mine de rien, on a attendu 2h40 d'essai libre pour voir la première. Alors peut-être pas. Il y a eu Schumacher, mais la vraie erreur éliminatoire. On a attendu
un vrai gros crash. Hein. Et même en qualif. En qualif, finalement, il a fallu attendre la toute fin pour qu'il y ait un drapeau rouge.
Ouais. Il y a encore. Mick, alors sur sa première sortie en essai, je sais pas, mais sur celle de ce matin, Grosjean, lui, il en a parlé juste avant les qualifs, et il dédouanait quand même pas mal. Mick, il met plus la faute sur la Haas.
Sur la voiture.
Bah, c'est vrai qu'à cet endroit-là, j'avais jamais vu personne.
Petite vengeance aussi de la part de Grosjean, peut-être.
Peut-être, mais après, on a vu que là, c'était compliqué du travail. Mais t'as déjà vu une voiture glisser de l'arrière à cet endroit-là, toi ? J'ai, moi, de mémoire, j'en ai jamais vu. Hein.
C'est vrai que c'est plutôt en bas. Hein,
Sur le sec, non.
Je parle bien sur le sec. Hein,
Sous la pluie, je crois qu'Eddie Irvine s'est sorti là.
Oui, mais bon, sous la pluie...
96.
C'est compliqué, oui. Bah, 96, il y a tout le monde qui est sorti à peu près tout le temps, chaque virage du circuit. Donc. Mais ouais, donc moi, je veux bien croire ce que nous dit Grosjean quand il dit... parce que pour lui, c'est une roue qui s'est freinée ou s'est bloquée...
À l'arrière, ouais. Il a perdu l'arrière. Ouais, ouais. Selon Grosjean, ouais.
Bon, voilà.
Ouais. Très bien. Dans ce cas-là, passons au qualif. Et donc, ont été éliminés de Q1, donc Mick Schumacher qui n'a pas participé à la séance, Mazepin est 19e, Latifi 18, Alonso 17 et Tsunoda 16e, tandis que le meilleur temps était fait par Bottas devant Leclerc et Verstappen.
Ben, ça fait mal pour Alonso, quoi.
Ça fait mal pour Alonso. Alors après, Ah non, Ocon, il avait quand même réussi à se qualifier 10e, parce qu'il me semblait qu'Ocon n'était pas très loin devant finalement, mais là, il y avait quand même un... Il y a quand même un écart. Hein. 4 dixièmes.
Ouais, on remet
après,
5.
Les Alpines ont... Enfin,
ouais, les Alpines n'étaient pas à la fête. Ouais, c'est... Ouais. C'est... On va dire que Alpine fait bien la distinction entre la principauté monégasque et la France.
On parlait des rookies. Tsunoda, ça a été difficile pour lui. Du côté de Marco, ça commence à s'agacer un peu publiquement. Sortir le popcorn.
Ah ben de toute façon le popcorn il est sorti toute l'année avec le clan Red Bull. Ouais ben c'est après c'est Tsunoda, je sais pas s'il a déjà eu l'occasion de vraiment de rouler.
Non, c'était son premier week-end à Monaco.
Ouais, parce que mais en F2 il a
qu'il a découvert qu'on roule le jeudi à Monaco lors du Grand Prix d'Espagne. Quand il a dit oui attention c'est jeudi hein, c'est le jeudi hein, à Monaco.
Comme quoi tous les pilotes sont pas forcément au fait. C'est fou.
Et là, il était emmerdé parce que Ryanair voulait pas lui changer son vol.
Non, mais... Donc, du coup, j'ai envie de dire, écoute, quand même, Tsunoda, il a quand même une excuse. Déjà, il a pas fait de faute, ce qui est énorme. Non, le coup dur pour la Q1, c'est Alonso qui...
Ouais,
qui passe
c'est
pas,
Alonso,
quoi.
Ça. Passe pas pour... un dixième, bon...
Et
après,
Vettel,
on connaît les écarts.
Vettel, lui, passe pour 8 millième. Pardon, 18 millième.
Ouais, 18 millième.
Mais bon, Russell lui passe en Q2, encore une fois.
Ouais, encore une fois, mais au bout d'un moment, il l'a fait à tous les Grands Prix. Alors moi, je regarde les Grands Prix sur F1 TV, ils sont là, oui, Mr. Saturday, tout ça, il a tout le temps battu son coéquipier, sauf quand...
En fait, à chaque fois, il se qualifie, il passe la Q1, puis il finit 15e de la Q2, quoi.
Ouais, c'est ça. Et moi, Russell, en fait, la hype... en dehors de son week-end chez Mercedes où effectivement il s'est battu contre Bottas etc, il était très bien parti pour l'emporter et c'était pas donné non plus. C'est très difficile de juger ce qu'il fait chez Williams vu la concurrence un peu faiblarde qu'il a face à lui et du coup on a beaucoup de mal à situer la Williams dans la hiérarchie. On pressent que c'est une voiture plus performante en qualif qu'en course. Et moi, plus ça avance, et moins j'ai de... Moins j'ai du... J'ai... Plus j'ai du mal à louer Russell pour ses performances, encore une fois, chez Williams. Parce que, oui, il se qualifie en Q2 à chaque fois, mais peut-être que c'est le niveau de la Williams. Voilà. Sans dire que George Russell est un pilote quelconque, je pense qu'il a prouvé rien qu'au Grand Prix de Sakhir l'année dernière qu'il y avait des choses à observer chez lui. C'est clair qu'il ne battrait pas aussi facilement, entre guillemets, pas dans le terme c'est facile, mais aussi largement. Latifi, s'il n'avait pas quelque chose de... Si c'était pas un pilote rapide, mais ça ne fait pas tout. Donc attention quand même avec Russell, oui, il passe en Q2, c'est bien, et il se qualifie 15e, alors que beaucoup disaient que... à Barcelone, la Williams faisait de bons chronos dans le dernier secteur. Il disait ah Monaco peut-être que machin. Bah finalement non.
Oui et puis peut-être tu as raison. Hein, surtout que Latifi n'ayant pas essayant de casser la voiture en Q1, il aurait peut-être pu améliorer et passer en Q2.
Oui.
Ce qui aurait peut-être pas rangé Sébastien Vettel. Mais bon ça c'est une autre histoire. Non, moi, c'est la... En Q, on verra peut-être un peu plus après. Aussi, ça, la bonne forme des alphas, ce week-end.
Mmh, ouais.
Qui sont pas et à la ramasse au fond, quoi.
Particulièrement de Giovinazzi.
Et particulièrement
très bon week-end de Giovinazzi, ouais.
Alors on sent que c'est moins un circuit de moteur.
Ouais, mais justement...
ça, ouais.
Et j'ai envie de dire, justement, sur un circuit comme Monaco, qui est si atypique, et sur le... Et là où l'expérience et le pilote peuvent vraiment faire la différence, je m'attendais vraiment à ce que Raikkonen soit devant Giovinazzi, et c'est pas le cas.
Non, globalement, bon week-end pour l'instant de Giovinazzi, hein. Ouais. Qui là, notamment, était 9e hein, de la Q1. 2 dixièmes devant Raikkonen. En Q2, eh bien, on retrouve à la 15e place George Russell, devant lui Kimi Raikkonen, Lance Stroll est 13e, Ricardo 12e, et Ocon 11e. Alors comme on dit, comme je disais, hein, voilà, Russell passe en Q2, mais c'est pour finir 15e de Q2. Bon, hein. Ouais. La grosse douche froide, c'est quand même Ricardo.
Ah ouais.
Il était pas content.
Ah non, il était pas content.
Hein. On le voit, parce que comme souvent il a l'air content, quand il est pas content, Daniel, on s'en rend compte.
Après, ça, c'est la suite logique, on va dire, du week-end. Hein. On sent que Ricardo, ce week-end, bah, c'était pas ça, quoi. Ouais. Ricardo sur la McLaren, je précise, je mets pas tout sur le dos de Ricardo.
On sait qu'il était déjà 11e hein, de Q1, ouais. Et là aussi déjà bien derrière son coéquipier.
Parce qu'on sait que Ricardo peut être très rapide à Monaco, mais là le binôme McLaren-Ricardo, ça fonctionne pas ce week-end. C'est compliqué.
Surtout, il avait du mal à comprendre.
Ouais. Mais je pense que c'est ça qui est le plus frustrant, c'est quand un pilote il sait que il n'arrive pas à faire un temps parce que voilà, ben par exemple on voit les pilotes pour prendre l'exemple Haas l'année dernière, ben Magnussen et Grosjean, ils faisaient le rond, ils savaient que la voiture avançait pas, bon bref, et ils faisaient avec. Là c'est quand tu comprends pas et que ton coéquipier est plus rapide que toi, tu comprends pas comment tu n'arrives pas à avoir autant de vitesse.
Ocon 11e, c'est presque une bonne place, j'ai envie de dire, pour l'Alpine.
Ouais, même si ça va être... Oui, parce qu'ils peuvent... c'est pas certainement... Alors, c'est compliqué, parce qu'à Monaco, comme c'est très difficile
de
doubler...
Ouais, c'est compliqué. Mais même, je veux dire, par rapport au niveau affiché de l'Alpine...
Ah oui, c'est sûr que faire mieux ça aurait été tenu du miracle.
Même si c'est très loin de Giovinazzi, hein, finalement.
Ouais. Un, c'est très difficile de doubler. Deux, c'est pas forcément un avantage de partir avec de faire une stratégie décalée.
Ouais.
Parce que t'as envie de maximiser le temps...
Enfin, bah, d'ailleurs, en Q2, ils ont tous fait leur temps en pneus rouges. Hein.
Oui, oui, mais...
C'est fait de trucs décalés en pneus jaunes. Non.
T'as envie de maximiser le temps que tu vas passer, en pneus... Les pneus sont limite pas assez tendres. Enfin, faut voir les pressions qui sont accordées aux écuries. C'est 17 et 17,5 PSI. Ailleurs, c'est 20 ou 19. Enfin, c'est dire si le circuit ne fait pas de contraintes, les voitures sont très légères parce que déjà la distance du Grand Prix est plus courte. Enfin, on fait que 260 km à Monaco contre les 305 normaux. Il y a peu de charge sur les pneus, surtout à l'avant. Les pneus arrière souffrent un petit peu si vraiment t'es dur aux réaccélérations, mais Donc demain, ça va être course d'attente à la safety car, la VSC, etc. Et il vaut mieux partir en rouge, quoi.
Soit ça, soit la possibilité de se débarrasser assez vite des médiums.
Ouais.
Mais à voir aussi quand ça tourne.
À noter qu'en Q2, c'est Leclerc qui a fait le meilleur temps devant Verstappen et Bottas. Hamilton n'est que 7e, hein, comme en Q1.
Et là, on commence à se dire qu'il peut se passer des trucs.
Ouais.
C'est pas
prudent
pour Verstappen.
Après, on se dit, Hamilton, il est capable d'avoir fait de la merde pendant tout le week-end et de nous claquer un super temps en Q3.
Oui.
Ouais, sauf que quand il fait ça, pas une bluff, il a fait le coup plusieurs fois, tu vois quand même une amélioration en Q1, en Q2. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément là pendant les 300 essais libres, mais tu vois, c'était pas, voilà, il est pas, tu vois pas arriver d'une 7e place à premier entre le Q2 et Q3, quoi. Là, effectivement, 7e, ça fait... Je te dis...
C'est étonnant. Puis même, il y a la manière de piloter, on sent que ça va pas.
Excusez-le, cet homme n'est pas qu'un dieu vivant de la Formule 1.
C'est qu'un demi-dieu. Ah.
Ouais.
Et donc, la Q3 est arrivée 10e, Antonio Giovinazzi, et donc est son Alfa Romeo. Sergio Perez est 9e. Vettel, lui aussi, en Q3, c'est une belle performance. est 8e, Hamilton est donc 7e, comme en Q2 et en Q1, Pierre Gasly est 6e, Lando Norris 5e, Sainz 4e, Bottas 3e, Verstappen 2e, et alors donc, Charles Leclerc a fait le meilleur temps, maintenant est-ce qu'il va partir en pole? On ne sait pas encore, hein, je sais pas si on regarde nos téléscripteurs, il n'y a toujours pas d'infos.
Il y a actuellement une inscription à faire, donc...
Je pense qu'on n'aura pas d'infos avant demain matin.
On n'est pas en mode F1 en ce moment, on est en mode F5.
Puisqu'il y a donc en effet ce drapeau rouge qu'il a causé, et donc il y a l'incertitude, notamment au niveau de sa boîte de vitesse. S'il la change, il devra prendre 5 places de pénalité.
C'est un double hommage à Schumacher. Schumacher, déjà qui s'était garé à la rascasse en 2006 et qui avait causé le drapeau jaune qui lui a accordé la pole, qu'il avait provisoire, et qui s'était fait déclasser puisqu'il savait. Il avait été dit que c'était. Il a été décidé par les commissaires que c'était volontaire. Bon. On n'en doute pas.
Mais il avait avoué, je crois, 2 ans ou 3 ans après.
Il a fini par avouer, oui.
C'est possible.
le fan de Ferrari dans le déni. C'est possible.
Moi,
tant que
j'ai pas une confession signée, je n'y croirais pas. Et Michael, ça lui ressemble pas à Michael. et double hommage à Schumacher, puisque à Monaco, c'est le dernier titulaire du meilleur tour en qualification qui s'est pas élancé de la pole à Monaco en 2012. Grâce à son accrochage.
C'est un peu hommage à Verstappen, hein, comme on l'a dit, hein, cette sortie de piscine, c'est un peu une spéciale Verstappen ces dernières années.
Ouais, ouais, donc bel hommage, gros hommage. Hommage à Louis Chiron aussi avec le casque, qu'il est dans la mémoire, week-end de mémoire.
C'est vrai que Schumacher avait fait la pole, mais il avait une pénalité qu'il avait...
À Barcelone.
Ouais, au Grand Prix précédent.
À cause de Bruno Senna.
Verstappen qui était extrêmement heureux à la radio quand on lui a annoncé qu'il y avait le drapeau rouge.
Ouais, il n'y avait pas beaucoup de mots entre les fucks.
C'est étonnamment, il n'y a pas de bip cette fois-ci, une fois.
C'est vrai.
Alors Bottas, 3e quand même.
Alors, on va le dire, hein, sur ce coup-là, Bottas met une pile à Hamilton.
Ouais, bon, franchement, là, pour une fois, bah, il met une demi-seconde, quoi.
Ouais. C'est pas souvent que ça arrive, donc autant le souligner.
Ah, puis c'est une alcaline, hein, c'est pas une...
Et même en interview, Hamilton, il avait l'air dépité. Enfin, c'est rare. tu sentais que, waouh, là, c'est pas son week-end.
Ouais, alors, hein, s'il a un week-end comme ça en 7 ans... Hein...
Oui, ça va.
On va remettre les choses en perspective, Lewis. Hein.
Justement, ouais, je le trouve très très sévère, Hamilton, avec son équipe juste après la qualif, en disant qu'il va y avoir des discussions sérieuses. Enfin, bon, tu peux avoir cette discussion, mais en faire part publiquement, je trouve ça un peu limite, sachant
que tu vas réfléchir et essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Quoi,
c'est pas comme si Hamilton, en je sais pas combien d'années chez Mercedes, n'avait pas fait aussi des erreurs sur un week-end et avait pu laisser l'équipe se sentir un peu délaissée par la performance du pilote. Bah là, c'est le contraire. L'équipe est peut-être un peu en dessous ce week-end, en sachant que la voiture correspond déjà un peu moins au tracé. C'est pas nécessaire de les engueuler pour un week-end sur effectivement combien d'années de succès.
Oui, surtout qu'en plus, c'est Mercedes, ils sont capables de compenser en course avec une stratégie, on va dire, audacieuse. Hein.
Donc, c'est Hamilton, il est capable d'avoir la VSC au bon moment et de faire...
Oui, en plus, tu mords des nouilles qu'il a, celui-là.
Oh, les mauvaises langues, oh là là.
Attends, il sort de la piscine, sort le safety car.
Mais bon, dommage pour le reste du peloton qui était... Tout le reste du top 10 était sur un tour de pole à ce moment-là.
J'imagine,
ouais, mais le truc, c'est que si ça arrive... Parce que bon, il y a...
Sainz aurait peut-être pu espérer mieux aussi, hein.
Oui, mais tous. Mais dans l'absolu, 99%... Enfin, il y a 99% de chances qu'il n'ait pas fait exprès. Enfin, on l'a déjà vu épisode-là 10 millions de fois.
Non, mais enfin, à part le dire sur le ton de la blague, voilà, c'est tout.
Mais le truc, c'est que si ça arrive à Giovinazzi, disons, il n'y a pas cet appel de certains pour une personne qui cause un drapeau rouge ou un drapeau jaune en qualification, on lui voit retirer, comme ça peut exister par exemple en IndyCar, son ou ses meilleurs temps. Pourtant, c'est la même chose, c'est la même erreur, c'est le même... truc qui cause le même incident et la même impossibilité pour les autres. Seulement parce que Leclerc était en pôle provisoire et jouait la pôle, il devrait payer, alors que Giovinazzi, ça passerait, parce qu'il est dixième, parce qu'il a une alpha, moi c'est un appel à ce que le règlement change, que je comprends pas, moi. Il y a une règle, en plus, qui a déjà été appliquée, qui dit que si c'est fait volontairement, il y a une pénalité, et sévère, en plus, d'autant plus à Monaco, parce que partir 22e, Schumacher... Je me souviens plus quel résultat il a fait, mais il a pas marqué énormément de points ce week-end-là. En tout cas, clairement, il jouait pas la victoire. La pénalité, elle serait pas justifiée. Et en plus, il se l'auto-infligera peut-être, la pénalité, s'il veut changer de boîte. Donc voilà. Moi, je comprends pas cette argumentation qui voudrait que pour une erreur de pilotage, parce que voilà, il n'a pas fait exprès, il n'a pas mis les autres en danger plus que de raison, plus que voilà. Pourquoi il faudrait qu'il paye alors qu'on n'aurait pas ce débat-là si c'était un autre pilote? Mais même si c'était voilà, ça aurait été Bottas, Verstappen, ouais. Ça n'aurait pas été le premier, on n'aurait pas ce débat-là. Que ce soit Leclerc ou un autre.
En plus que cette règle, ben justement, ça nous a permis d'avoir un Leclerc même à l'attaque complet dans un dernier tour, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait s'il y avait eu cette règle qui lui avait mis un danger de se voir retirer ses temps.
Ouais, t'imagines si le... Parce qu'on sait que bon, c'est standard, en effet, un Q3, ils font deux tentatives. T'imagines si celui qui fait dans la première tentative, celui qui a le meilleur temps, il n'aurait même plus attaqué, c'est débile, quoi.
Moi, je pense qu'après, le risque de se faire prendre son temps est aussi grand que le risque de se mettre au mur. Mais quand même, ici, ça nous a permis quand même de voir un Leclerc qui s'est permis d'avoir un deuxième tour. Peut-être que oui, ça va lui porter préjudice pour la suite du week-end. Mais en tout cas, c'était tout à son honneur.
Oui, après, la frustration de Verstappen, je la comprends. Elle est tout à fait légitime. Mais j'ai l'impression que son fait qu'il est plus... il est contre la situation elle-même que contre Leclerc personnellement. Hein, Donc, il n'y a pas de problème.
Et même Leclerc, je pense, est déçu d'obtenir la pole comme ça, même indépendamment du fait qu'il la perdra peut-être demain.
Oui.
Alors, messieurs, si Leclerc part en pôle, est-ce qu'il peut gagner et être le deuxième monégasque à gagner à Monaco?
Je le souhaite. Oui, ça fait pas tout, loin de là. Les aléas, c'est le Grand Prix de Monaco. Les aléas, il y aura des erreurs, il y aura peut-être des accidents, peut-être des problèmes de fiabilité, même si c'est de plus en plus rare.
Les stratégies,
ça fait pas tout. Demander à Raikkonen s'il a gagné en 2017, il partait en pôle, et ben non. La stratégie s'est fait. Il n'avait pas la bonne, c'est comme ça.
Ouais,
changement de pneus à Monaco souvent.
Ouais. Vous pensez qu'on part sur une course bien chiante ou ça va être agité? Parce que c'est souvent ça à Monaco en fait. Hein. C'est tout ou rien entre guillemets.
Pourtant, c'est souvent le premier tour qui donne le ton. C'est-à-dire, le premier tour, s'il est agité derrière, ça cause safety car, ça cause relance. Potentiellement reproblème, etc. Sinon, ça va être une course d'attente, quoi.
A priori, la météo serait nuageuse, mais pas forcément pluvieuse.
Alors voilà, moi j'ai regardé deux sites différents pour avoir deux sources différentes d'informations, parce que la météo, c'est ciel voilé, 19-20 degrés, voilà, donc pas de...
Mais pas de pluie, voilà. Donc la pluie, apparemment, elle arrive lundi à Monaco. Oui, elle revient lundi.
Allez, on décale. On fait des essais le jeudi.
On le sait.
Grand Prix le lundi.
On le sait, de toute façon, s'il pleut à Monaco, c'est ça commence à pleuvoir entre l'arrivée et le podium.
Oui, c'est vrai.
Je sais plus, on a eu deux ou trois années, cette configuration. La pluie arrive juste après l'arrivée.
La chance qu'on a dans la configuration de cette grille, c'est que c'est quand même Verstappen derrière. Donc, niveau animation. Après, je ne sais pas dans quel état d'esprit il va être. Est-ce qu'il va essayer
en plus,
de...
Il partira peut-être en pôle. Hein. Pas... Oui. On ne sait pas.
Mais est-ce qu'il va essayer de tempérer si Leclerc part devant en se disant qu'il est quand même bien devant Hamilton? Ou est-ce qu'il va se dire, je profite justement qu'Hamilton soit loin pour essayer de prendre les 25 points, ce qui fera d'autant plus mal?
C'est vrai, oui.
Moi, j'espère surtout que chez Ferrari, on a pris quelques cours de stratégie.
c'est le moment, hein, parce que Monaco, oui.
C'est Ferrari.
Surtout qu'en plus, les positions sont bien éclatées, hein, parce que Hamilton n'est que 7, Perez n'est que 9.
Ouais.
Il y a quasiment, c'est les Ferrari, en effet, qui sont les mieux placés en groupe.
Oui, les plus proches. Ouais. Les plus proches. Ouais, mais c'est ça, c'est Ferrari. Est-ce que Ferrari va se prendre les pieds dans le tapis de la stratégie? Red Bull vont-ils nous sortir une stratégie inattendue qui va tout changer? Norris et Gasly vont-ils jouer les troubles faites? C'est l'inconnu. Comme on dit, c'est Monaco. Soit c'est finalement il va rien se passer et ça va être le train-train. Soit c'est il peut se passer énormément de choses parce que un incident peut généralement avoir des répercussions et en engendrer d'autres, etc. C'est Monaco. Il y a pas d'entre-deux.
Il y a très, pire qu'un train-train n'empêche. Hein. Moi, les essais libres, c'est quand même un plaisir de voir.
Allez, moi,
de
la
voir
caméra.
Les couchettes, pas loin. Ah.
Moi, c'est la caméra à la sortie de Naïve Virage, à la sortie de la piscine. Le passage, la vitesse où il passe, c'est impressionnant.
Ouais.
En plus, la caméra, elle sait, hein, elle cible bien sur le recoin. On sait que c'est là qu'il y a un gros potentiel de crash.
Non, moi je pense que c'est celle qui est justement juste de l'autre côté de la piste.
C'est l'entrée.
Où tu les vois à rentrer, la vitesse. Bon, et puis en plus, on oublie, mais regardez 7 et 8, il y a Hamilton Vettel, il peut y avoir une belle bataille entre les deux, mine de rien. On l'attendait depuis des années, celle-là.
On s'en fout. On va peut-être l'avoir. Place.
Ah, tu sais, s'il se passe
même
rien
si
devant.
Si le change de boîte de vitesse, il sera devant.
C'est vrai. Plus...
Ouais.
T'étrangles pas en disant oui, Quentin. Ouais, mais regarde, s'il finit deuxième, t'en seras, ou troisième à mi-temps, t'en seras que plus content demain.
Oui. Tu crois pas trop, mais.
On n'en sait rien, il peut faire podium. Hein.
Allez, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. On vous souhaite à tous un bon week-end. En plus, c'est le week-end de Pentecôte, il est plus long ce week-end.
Ouais, on bosse pas lundi.
Pas pour toutes.
Ouais.
On vous souhaite à tous une bonne course. Comme d'habitude, après le Grand Prix, il y aura les votes pour le Quintet plus ou moins. Et le SAV d'après-course, ça sera lundi soir.
Ouais.
Allez, ciao à tous.
Salut.
À bientôt, salut.